format de matelas Alcove, ultra confortable, dont le double, en spécial à $599, taxes payées. Livraison rapide et gratuite. Matelas Dauphin, une entreprise 100% québécoise.
Ça n'arrive qu'une fois par année. La super vente de déstockage sous la tente Trévy, directement dans le magasin Trévy de Québec et sous la grande tente installée à l'extérieur du magasin. Notre magasin et la gigantesque tente se transforment en une véritable foire aux aubaines pour 3 jours seulement. Aujourd'hui jusqu'à 21h, demain et dimanche. Quantité limitée, premier arrivé, premier servi. Piscine creusée, piscine en béton, piscine hors terre, spa et spa de nage. Profitez de rabais exceptionnels et d'installations dès cet automne. Vous préparez déjà l'été prochain? Réservez votre projet pour 2026 et obtenez dès maintenant le plus bas prix garanti de l'année. Mais ce n'est pas tout. La super vente de déstockage sous la tente, c'est aussi des rabais sur le mobilier de jardin et les pavillons à Doring. Plus de 15 millions de dollars d'inventaire à liquider. Des installations rapides en 3 jours. Et des prix chocs sur les toiles, robots, chauffe-eau, produits chimiques, parasols, balançoires, trousses de fermeture, même sur les abris d'auto. Et pour l'occasion, Trévy prendra soin de vos intérêts pendant 2 ans. Ne manquez pas la super vente de déstockage sous la tente Trévy, aujourd'hui jusqu'à 21h, demain et dimanche, à votre magasin Trévy du 909 boulevard Pierre-Bertrand à Québec. Trévy, une longueur d'avance.
C'est présentement l'événement Découvrez Mazda chez Mazda Châtel. Obtenez un rabais fidélité de 1,5% à l'achat ou à la location du CX-5 2025, plus un boni Mazda de $500. Mazda Châtel, votre concession Mazda de Québec. Sortie Pierre Bertrand, secteur du Marais.
Maison Adam.
Modernisez votre équipement audio avec les experts de Maison Adam. Profitez d'une réduction de 20% sur une sélection de produits KIN par la réputée marque québécoise Totem, vous offrant qualité sonore, polyvalence et commodité. Rendez-vous au 710 rue Bouvier ou visitez maisonadam.ca pour les meilleurs conseils, services et produits au meilleur prix garanti.
Maison Adam. Bienvenue dans la technologie.
Depuis plus de 15 ans, le groupe GSC vous offre des formations complètes et intensives pour réussir vos examens de la RBQ. Un vrai clé en main pour les entrepreneurs en construction. Avec nos formations bilingues et hybrides, en classe ou en ligne, outillez-vous pour obtenir votre licence RBQ avec des horaires flexibles, conciliés études, travail et vie de famille. GroupeGSC.com, votre avenir en construction commence ici, à Laval, Brossard, Gatineau et Québec, au 1995 Frank Carrel, Groupe GSC, formé pour bâtir.
L'événement Prenez la route Hyundai est de retour. Cet été, que vous empruntiez la 10, la 15 ou la 132, votre taux de financement sera de 0% à l'achat du Ioniq 6 2025. Plus, recevez jusqu'à 11 000 $ de rabais additionnel de Hyundai et du gouvernement du Québec. Ou louez la version Preferred longue portée à partir de 1,99% avec des paiements hebdomadaires de 100 $. Avec ses 581 km d'autonomie, c'est facile d'électriser son été avec Hyundai. Les conditions s'appliquent, visitez HyundaiCanada.com pour les détails.
Choix.
Choix.
98.
98.
1. Radio X. À Québec, c'est Radio X. Choix.
Radio X.
Faites-vous.
Faites-vous.
Votre propre opinion.
Oh my gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west.
Radio X. Files.
Avec Christian Page.
Oh my God,
Radio X.
Bonsoir, ici Simon Durivage. Personne, absolument personne n'aurait osé imaginer ce qui s'est passé aujourd'hui aux États-Unis. Des terroristes ont réussi à bafouer les plus grands symboles de la toute-puissante Amérique. Les représailles aux pires attentats de l'histoire pourraient être terribles. Voici vos nouvelles de fin de soirée. Quelles images, elles sont dans nos têtes pendant longtemps. 4 avions civils détournés en même temps avec des passagers à bord. Le World Trade Center de New York, pulvérisé. Le siège de la défense américaine, le Pentagone, incendié et en partie détruit. Terrifiant, mais bien réel. Le bilan sera très lourd. Il y aura des milliers de morts, a dit ce soir le président Bush. Mais d'abord, reprenons le fil des événements. Harold Gagné.
Bienvenue dans les Radio X-Files. Lourd souvenir, évidemment, parce qu'hier, en date du 11 septembre, on célébrait encore une fois le triste anniversaire de l'attentat du 11 septembre 2001. Et pour en parler, Christian Page, qui est à l'eau et qui est prêt en studio.
Oui.
Comment ça va, Christian?
Oui, effectivement. Ça va très bien. Effectivement, difficile de passer par-dessus les événements du 11 septembre 2001 sans se remémorer non seulement les événements tragiques, mais également toutes les théories du complot qui ont suivi. Et tu comprendras que depuis le début de la semaine, j'ai été inondé de questions sur « Oui, c'est le 11 septembre, vous en pensez quoi? Est-ce qu'il y a eu ou non un complot? » Alors, je me suis dit « Bon, quelle belle occasion de revenir un peu sur ces théories du complot et essayer de décanter ce qui a été dit, ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas, ce qui apparaît comme une théorie du complot, ce qui n'en est pas une. Oui. » Parce qu'il faut toujours se rappeler que les gens... Je sais que les gens auront peut-être tendance à dire « Oui, mais Christian Page, c'est un type qui ne croit pas au complot. » Précisons tout de suite que les complots, ils existent. Nous vivons avec au quotidien. Hein. Il suffit que deux personnes décident ensemble d'en éliminer une troisième, comme on le voit souvent dans le monde interlope ou dans le milieu des narcotrafiquants. Ça devient un complot.
Oui.
Hein. Donc, on va comploter pour faire disparaître quelqu'un. On pourrait un peu imaginer également dans le milieu politique ou le domaine financier des gens qui vont décider de détourner des fonds publics vers des paradis fiscaux. Ça devient somme toute des complots. Donc, quelque part, les complots, ils existent. Ils sont autour de nous. Les gens en profitent, s'en mettent plein les poches en bafouant des règles élémentaires d'éthique. Mais quand on parle de théorie du complot, on a bien compris que ce ne sont pas ces complots qui intéressent les gens ou les théoriciens du complot, mais c'est ce que moi j'appelle les super complots. Ouais. Les super complots, c'est nous ne sommes pas allés sur la Lune, la NASA nous cache que la Terre est plate, le président Kennedy a été assassiné par 10 tireurs embusqués allant des services de renseignement en passant par Cuba et Moscou, ou bien encore, bien sûr, les attentats du World Trade Center.
Mais on dirait que quand c'est trop gros comme événement, on dirait qu'on a besoin de trouver une raison.
Ici, là, ce que tu dis, Nick, ça rejoint exactement... Parce qu'il faut savoir que les théories du complot, elles sont pas nouvelles. Hein, à une certaine époque, même si on remonte dans l'Antiquité, hein, par exemple, Néron avait comploté pour accuser les chrétiens d'avoir mis le feu à Rome. Donc, les théories du complot sont pas nouvelles. Hein. Les théories du complot, ça date pas d'hier. Et on sait, combien de gens dans l'Antiquité, hein, des gens, que ce soit à Rome ou en Égypte, ont assassiné des frères et des sœurs à l'issue de théories du complot pour s'emparer du pouvoir. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais c'est vrai qu'au 20e siècle, d'ailleurs, l'expression en théorie du complot, c'est une expression qui avait été lancée par un agent du FBI alors qu'on enquêtait sur l'assassinat du président Kennedy. Alors, des gens avaient demandé, « Oui, mais bon, est-ce qu'il y avait un tireur, deux tireurs? » Et un agent du FBI avait répondu, « Évitons de tomber dans les théories du complot. » Donc, l'expression était lancée et depuis, donc, elle résume bien la pensée de ça. Dans le cas des théories du complot, il faut quand même savoir que elles ont explosé là, littéralement avec l'histoire du COVID, l'histoire de la COVID. Hein. Bon, là, les anti-vax, il y avait les tours de G5. On voulait nous injecter des micro-puces et tout le reste. Donc, c'est vrai que les gens isolés chez eux, derrière leurs écrans, évidemment. Avait pas d'autre choix que d'aller se balader sur Internet. Et sur Internet, bien, malheureusement, on trouve du bon comme du mauvais. Et souvent dans des extrêmes. Donc, certaines personnes se sont retrouvées dans ce qu'on pourrait appeler le rabbit hole, hein, ce clapier où, éventuellement, on parle de théorie du complot. Et ce que tu soulignes, c'est exactement ce que les... Parce qu'évidemment, devant l'explosion des théories du complot, les sociologues, les anthropologues ont voulu savoir mais pourquoi les gens tombent dans des théories du complot. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire ou ce qui a été cru pendant un temps, les gens qui s'intéressent aux théories du complot ou qui adhèrent aux théories du complot ne sont pas forcément des gens qui sont peu éduqués. On a souvent cette image-là du type avec un qu'une dent dans la bouche au fin fond du Wyoming qui va adhérer à des théories du complot.
Oui.
Dans son sous-sol. Alors que On l'a vu, hein, de triste mémoire au Québec. Rappelons-nous, par exemple, l'affaire de l'OTS, où des gens éduqués avaient cru à des histoires, à des fadaises, hein, avec des contacts, avec des extraterrestres venus de Sirius et tout le reste. Tout ça, ça nous semble tellement irréaliste qu'on a de la difficulté à comprendre que des gens éduqués ont pu tomber dans des pièges comme ceux-là. Mais les théories du complot, c'est un peu la même chose. On retrouve dans les théories du complot des gens, bien sûr, qui sont peu éduqués, qui sont prêts à croire n'importe quoi, mais on trouve également des gens éduqués, des gens qui sont assez politisés, qui suivent la politique. Mais ce qui caractérise les gens qui adhèrent aux théories du complot, c'est des personnalités qui sont fondamentalement paranoïaques. Et ça, ça va pas, ça n'a aucun lien avec l'éducation. Il y a des gens qui, fondamentalement, ont cette tendance-là à croire que tout le monde complote contre eux, qu'on parle dans leur dos, qu'il y a toujours c'est des gens qui voient toujours le verre à moitié vide. Donc, tu vois un peu le genre de personnalité. Et ces gens-là, un autre élément qui les caractérise, c'est le refus d'accepter que le hasard joue un rôle important. Donc, dans toutes les activités qu'on fait, on se dit, ben là, écoute, c'est arrivé de même, un accident, c'est un accident, c'est le hasard qui a voulu ça. Les gens qui adhèrent aux théories du complot, c'est de se dire, il n'y a pas de hasard. Il y a toujours une volonté, ouais, quelque part, que des événements arrivent de cette manière-là. Et là, évidemment, on s'invente des ennemis invisibles. Ça peut être les Illuminati, les francs-maçons, les reptiliens, le gouvernement, tout ce que tu voudras. Donc, on a quand même des traits de caractère qui apparaissent et qui n'est pas fondamentalement lié à l'éducation des gens. Quoique, d'une certaine façon, il faut quand même le préciser, plus on est éduqué, moins les gens auront tendance à tomber dans des théories du complot. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on a un diplôme universitaire, qu'on sera pas, on se laissera pas entraîner dans une théorie du complot. Et quand les événements sont tellement grands, tellement importants, qu'ils vont jouer un rôle déterminant sur la continuité de la société, c'est difficile de croire que tout ça arrive par hasard. Et ces gens-là vont se mettre à imaginer des espèces de mécaniques derrière qui ont amené ces événements-là à se produire. Et en même temps aussi, la théorie du complot permet de donner une explication relativement simple à des événements qui pourraient être très compliqués. Oui. Prenons par exemple les attentats du 11 septembre. Si toi et moi, on s'assoit autour d'une table, on se dit, essayons de décanter toute cette histoire-là, il faudrait être des experts dans plusieurs domaines. Il faudrait d'abord être un expert en politique internationale. Comment se fait-il que des gens dans des pays arabes, et notamment Oussama Ben Laden, ces gens-là soient devenus les ennemis des États-Unis, alors que 30 ans plus tôt, ils faisaient commerce entre eux, bon, on était chummy-chummy. Et puis, soudainement, les politiques se sont dégradées. Donc, pour comprendre la position d'Al-Qaïda, les positions extrêmes d'Oussama Ben Laden, il faut comprendre quel a été son ressentiment par rapport à l'Amérique et par rapport à des décisions qui ont été prises dans lesquelles il sent que les pays arabes ont été floués et lui, ben, se sentait un peu le représentant de ces pays floués ou de ces décisions qui ont floué ses congénères. Donc, mais on n'a pas cette connaissance-là. Moi, je ne l'ai pas. Peut-être que toi, tu l'as, mais...
Ben, petite échelle, mais c'est tellement complexe.
Tu comprends? Donc, oui. Il faudrait avoir autour de la table des gens qui connaissent bien la situation et qui pourraient nous dire, ben voici pourquoi Oussama Ben Laden est devenu l'ennemi des États-Unis. Ensuite, il faudrait que toi ou moi, on soit des experts également dans le domaine de l'aéronautique. Comment ces gens-là ont-ils pu soudainement s'emparer d'avions, des gros porteurs, hein, parce qu'on parle ici de Boeing 727 ou des trucs comme ça. Comment est-ce que ces gens-là ont réussi à s'emparer de ces avions ou en défiant la sécurité et ensuite de prendre ces appareils, prendre le contrôle de ces appareils et aller percuter, par exemple, des cibles très précises, soit les tours jumelles du World Trade Center, encore, ou le Pentagone, quant à la quatrième cible, parce que, faut-il le rappeler, les événements du 11 septembre, c'est 4 attentats menés avec des appareils civils, des gros porteurs de passagers. 3 apparemment ont atteint la cible désignée, les tours jumelles du World Trade Center, le Pentagone. Quant à la quatrième cible, on ne la connaîtra jamais, puisque à un moment donné, les passagers, là on parle ici c'était le vol 93 de la United Airlines. On sait que les passagers se sont révoltés, ont réussi à reprendre en partie le contrôle. En tout cas, ils ont eu le dessus sur les terroristes. Mais l'appareil, à ce moment-là, était en vrille et l'appareil s'est écrasé dans un champ à Shockville, près en Pennsylvanie. On ne connaîtra jamais quelle était la véritable cible des terroristes, mais on peut supposer, par proximité, qu'il s'agissait sans doute de la Maison-Blanche ou du Capitole. Mais ce sont ces quatre attentats, tous menés à partir d'appareils gros porteurs. Comment donc ces gens-là ont-ils pu finalement se glisser dans le poste de pilotage, prendre le contrôle de ces appareils, les contrôler, avoir une manœuvre suffisamment importante pour pouvoir frapper des cibles précises? Donc moi, je ne suis pas un spécialiste de l'aviation, je ne sais pas quelles sont tes connaissances dans le domaine de l'aviation.
Assez
je
suis de base.
Pas pilote. C'est assez de base. Hein? Oui. Je veux dire, un coup que j'ai payé mon ticket pour monter dans l'avion, oui, ça se limite
à trois ans.
Et où est mon siège? J'ai 2-3 épisodes de BD là, à Canal D, mais ça se limite un peu à ça. Donc, on n'est pas des spécialistes. Hein? Puis on n'est surtout pas non plus des spécialistes. Non seulement on n'est pas des spécialistes dans le vol lui-même comme pilote, mais également on n'est pas des spécialistes non plus de la physique de l'aéronautique. Hein, par exemple, à quoi peut ressembler un appareil qui va frapper à 500 km/h un bâtiment, comment est fait l'appareil, comment il va réagir, comment les ailes vont s'en détacher, où se trouvent les réserves. On sait que le carburant est dans les ailes, mais à partir du moment où il y a un point d'impact, cette rupture-là va entraîner un incendie, comment le kérosène va se déverser. Quelle est la structure même de l'appareil? Hein? Un appareil, un avion, je me rappelle avoir lu à un moment donné un théoricien du complot qui dit « Ah, ben tu sais, un avion, c'est fait en acier, puis quand si on incendie une voiture, il va rester une carcasse de voiture. » Or, quand on regarde, notamment dans l'attentat contre le Pentagone, on aurait dû retrouver une carcasse carbonisée comme une carcasse de voiture.
Ouais.
En réalité, c'est pas vrai, parce que les avions ne sont pas faits en acier. Les avions, d'abord, le squelette intérieur, souvent, il est en grande partie en bois ou en aluminium, et ensuite, le revêtement à l'extérieur est en aluminium. Donc, c'est pas de l'acier comme un camion ou une voiture. Et ensuite, les vraies parties qui sont faites en acier, elles sont assez limitées. Hein? On parle essentiellement des moteurs, le train d'atterrissage, les grosses parties très lourdes, mais le reste de l'appareil n'est pas fait en acier comme l'est un camion ou une voiture. Donc, quand on ne connaît pas ça, on ne connaît pas les structures, on ne connaît pas les matériaux, bien là, évidemment, on peut avoir un raisonnement qui est faussé. Et au-delà de ça, une fois qu'on a acquis ces connaissances-là, bien, il faut mettre autour de la table, ou toi ou moi, il faut avoir une connaissance sur la structure des bâtiments. Comment réagit un bâtiment fabriqué de telle ou telle façon? On n'est ni architecte, on n'est pas des spécialistes en physique des matériaux. Donc, on le voit là. Je pourrais longuement comme ça le poursuivre pendant 2 heures, là, mais je pense qu'on a compris le principe. C'est pas quelque chose qui est facile à comprendre simplement. La théorie du complot permet de résoudre, on passe outre ces questionnements-là. Ben, les attentats du World Trade Center, c'est on a mis de la dynamite dans la bâtisse, on l'a fait sauter, merci, bonsoir. Et tout ça pour justifier une guerre contre le terrorisme ou pour aller chercher du pétrole ou mille et une raisons. Donc, on est passé outre le questionnement de base pour finalement arriver avec une solution qui est beaucoup plus simple. Et ça, ben, on retrouve ça dans à peu près l'ensemble des théories du complot. Quand tu regardes, par exemple, les gens qui disent « nous ne sommes pas allés sur la Lune » et tu leur poses la question en disant « mais pourquoi? » Ben, parce qu'on ne voit pas d'étoiles sur les photos lunaires. Ben, c'est clair que le type n'a pas un diplôme en photographie parce que, je veux dire, si tu essaies de prendre une photo chez toi de tes enfants autour de la table à pique-nique le soir, ben, tu vas constater que tu ne vois pas les étoiles si tu veux voir tes enfants. Puis si tu veux voir les étoiles, il faudra bien que tu surexposes tes enfants. Donc là, tu vas avoir 2 grosses taches blanches autour d'une table blanche, mais tu vas voir les étoiles. Donc, tu sais, tu comprends, c'est genre, pourquoi le drapeau semble-t-il flotter, puis pourquoi y a-t-il pas de cratère, ou pourquoi l'empreinte est-il dans le sol? Il faut avoir des connaissances en physique, en photographie, en mécanique, peu importe, pour comprendre l'ensemble de ces questionnements-là. Et comme on n'a pas ces réponses-là, bien évidemment, on s'imagine toutes sortes de scénarios. Cela étant dit, dans le cas du World Trade Center, évidemment, il y a des questions de base qu'on peut se poser, qui sont pas forcément, parce que remettre en question ou questionner des versions officielles ne fait pas de nous des théoriciens du complot. Ça, il faut bien le préciser. Hein? Mm-hmm. C'est pas parce que le gouvernement te dit quelque chose, que les autorités disent quelque chose ou que la police dit quelque chose, puis tu dis « ouais, j'ai des doutes ». Ça fait pas de toi un théoricien du complot, là, on l'a bien compris. Là.
Oui,
ça fait de toi un citoyen éveillé. Ça fait surtout ça. Là. Mais là où ça devient une théorie du complot, c'est quand tu vas passer outre ces, ses affirmations ou ses conclusions officielles pour adhérer à des hypothèses qui sont un peu fantaisistes et surtout pas appuyées par aucun élément concret. Là, on tombe dans la théorie du complot. Dans le cas du World Trade Center, que des gens ont questionné plusieurs éléments, comment est-ce que ces terroristes ont-ils pu détourner la sécurité, etc. On a découvert également au cours des mois d'enquête que les autorités, notamment les services de renseignement, le FBI et la CIA, avaient été informés. Il y avait déjà eu des attentats au préalable contre des intérêts américains dans le monde. On savait, les autorités américaines avaient été informées qu'on pouvait, qu'il était possible qu'il y ait des attentats importants qui se produisent aux États-Unis, et on ne l'a pas fait. On n'a pas pris les mesures nécessaires. Le fait que des gens ont été incompétents dans leur travail et qu'après coup, ils ont essayé de sauver leur emploi en essayant d'imaginer toutes sortes d'explications, ça fait d'eux des incompétents. Ça ne donne pas nécessairement preuve qu'il y a une théorie du complot. On comprend bien ça. Dans le cas des grandes questions, il faut quand même savoir que ça fait 24 ans maintenant que les attentats du World Trade Center ont eu lieu. Les questions que les gens ont posées, notamment sur comment les avions ont été détournés, pourquoi ils ont pu être interceptés par des chasseurs, comment les tours ont pu s'écrouler de cette manière-là. Et un des éléments phares de la théorie du complot, notamment si on se concentre sur le World Trade Center, c'est l'effondrement des heures après l'attentat des tours jumelles d'un bâtiment qu'on appelle le bâtiment numéro 7, qui lui s'est écroulé le plus tardivement en journée, là, aux alentours de 17h30, alors que les attentats avaient eu lieu aux alentours de 9h le matin. Donc, le bâtiment qui se trouve quand même dans l'îlot, si je puis dire ça comme ça, l'îlot de bâtiments qui constituait le World Trade Center et qui culminait par les fameuses tours jumelles. Donc, ce bâtiment numéro 7 faisait partie de cet îlot, de ce quadrilatère, et il s'écroule donc plusieurs heures après l'effondrement des tours jumelles. Et les théoriciens du complot se sont beaucoup partagés des images où on voit le bâtiment numéro 7 qui semble à peu près intact, et là, il s'effondre. Et là, bien évidemment, on fait remarquer que dans ce bâtiment-là, il y avait des bureaux de la CIA, il y avait les bureaux des services d'urgence de la ville de New York. Donc, ça ne peut pas être un hasard. Donc, c'est forcément qu'il y a eu un complot. Bon. Il faut savoir que ces questionnements-là, qui, somme toute, quelque part, sont légitimes. Hein? Donc, on regarde les événements, puis on se questionne. Mais ces questionnements-là, ils ont été solutionnés. On a apporté des réponses à chacune de ces questions-là. Et c'est les réponses qu'on a apportées, ce sont des réponses qui tiennent parfaitement la route. Donc, pourquoi, comment les pilotes comment les terroristes ont pu entrer dans le cockpit, s'emparer de l'avion? Il faut savoir que lorsqu'on pilote un gros porteur, la problématique, c'est de le faire atterrir et de décoller avec l'avion. Mais une fois qu'il est en vol, c'est un peu comme un joystick, là. Tu peux prendre le contrôle, tu désactives le contrôle automatique. Puis évidemment, tu fonces sur ta cible. Puis là, t'as pas à te préoccuper de la sécurité des passagers, le confort des passagers, puis ni non plus de considérer les limites de l'appareil. De toute façon, tu vas le cracher dans une tour.
Puis je me rappelle qu'on nous avait raconté que la plupart des terroristes avaient même suivi des cours de pilotage. Là, pour être
oui, c'est ça. Donc, ils avaient tous eu chaque commando, hein, il y avait un commando composé de 2 ou 3 terroristes dans chacun des appareils. Et ces commandos-là, il y avait parmi eux toujours un individu qui avait minimalement une formation en pilotage. L'un d'entre eux avait d'ailleurs une double pilote, hein, une double licence de pilote pour le pilote privé et pilote commercial. Bon. Donc, c'est des gens qui étaient quand même familiers. Ce n'étaient pas des pilotes professionnels, mais ils étaient quand même, quand ils se sont retrouvés derrière les commandes, ils connaissaient un peu comment ça fonctionnait un avion puis les principes de base. Donc, ça, on a compris ça. Donc, ces questions-là ont été répondues. Également, pourquoi les tours se sont écroulées de cette façon-là? Ben, et puis, évidemment, il faut éviter les comparaisons boiteuses, parce que dans les théories du complot, on voit souvent ce genre de comparaisons. Oui, mais des décennies plus tôt, un gros porteur de l'armée américaine avait heurté l'Empire State Building. Et l'Empire State Building ne s'est pas écroulé. Une comparaison qui est un peu boiteuse. L'Empire State Building, les murs, hein, la structure extérieure est en béton, alors que les tours du World Trade Center, c'est une structure autoportante. C'est-à-dire que c'est simplement des tubes en métal avec des vitres autour. On n'est pas du tout dans le même genre de structure de construction. Et dans le cas du World Trade Center, une fois que l'avion est entré dans le bâtiment, le centre des tours, c'était les puits d'ascenseur. Le kérosène s'est déversé dans le puits d'ascenseur. Et même si nous, de l'extérieur, et comme on le voyait dans les images des médias, on ne voyait qu'un trou dans la bâtisse avec de la fumée qui sortait, il faut savoir qu'à l'intérieur, dans les puits d'ascenseur, on avait des colonnes de feu qui faisaient 150-200 mètres de haut, hein, qui brûlaient tout le kérosène. Là, imagine-toi, là, il y a littéralement une cheminée de feu au centre du bâtiment.
Ça chauffe.
Et des arguments comme genre, oui, mais le métal fond à 1200 degrés ou 1300 degrés, le carburant brûle à 750 ou 800 degrés, donc le métal n'aurait pas dû fondre. Ça, c'est un argument un peu stupide parce qu'on l'a tous vu dans des forges. Si tu chauffes du métal à 700 ou 800 degrés, il devient mou comme du spaghetti. Il ne fond pas. Hein? Quand on voit les forgerons qui tordent du métal, le pli lui donne des formes. Le métal n'est pas en train de fondre. Il est simplement à vif, à rouge, et il est amolli. Donc, à partir de 700 ou 800 degrés, sans nécessairement fondre, le métal perd toute sa portance, perd toute sa force. Et à ce moment-là, la tour devient un gros morceau de spaghetti qui va s'effondrer. Là. Donc, ces questions-là ont été répondues, mais... Ce qu'on retrouve souvent dans les théories du complot, c'est un refus d'accepter ces explications. Alors oui, moi, de mon côté, ça vient avec. Et c'est triste, mais s'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont autour d'eux des gens qui sont tombés dans le piège des théories du complot, puis souvent, la question qui m'est souvent posée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, la réponse, c'est pas grand-chose. Hein. Les gens, à partir du moment où sont embrigadés dans les théories du complot, ces gens-là deviennent un peu imperméables à tout argumentaire, à toute discussion. Donc, on les laisse aller dans leurs croyances en espérant qu'à un moment donné, à force de faire des lectures ou de rencontrer des points de vue opposés, ils vont peu à peu s'ouvrir et remettre en question leurs croyances. Mais on est ici dans un univers là, qui est exactement comme ceux qui sont embrigadés dans des croyances religieuses, qui sont très extrémistes. Tu as beau essayer de discuter avec eux, il n'y a rien qui va passer. Ils vont toujours trouver un argument pour contrecarrer ce que tu dis, et même si cet argument-là n'a pas de sens. Tu dis, ouais, mais je me rappelle à un moment donné avoir entendu un argumentaire où des gens disaient on n'a pas été sur la Lune. Et là, tu poses la question, oui, mais si on n'a pas été sur la Lune, qu'est-ce qui pourrait te convaincre qu'on est allé sur la Lune? Et là, la personne, c'est de répondre, si tu me montres une photo des sites d'atterrissage, les vaisseaux sur la Lune, je pourrais y croire. Alors, tu réponds, ben oui, mais on les a, ces photos-là. Depuis là, les 30 dernières années, on a mis en orbite autour de la Lune des sondes qui ont recartographié la surface lunaire avec des caméras qui étaient beaucoup plus performantes que celles embarquées sur les vaisseaux Apollo des années 70. Et sur certaines de ces photographies qui sont à très, très haute résolution, non seulement on voit les vaisseaux dans le premier étage des lemmes lunaires qui sont restés sur la Lune, mais on peut même voir les pas laissés par les astronautes. On peut voir également les traces laissées par la fameuse Jeep lunaire, là, notamment pour les vols, les missions Apollo, je pense c'est 15, 16 et 17, qui avaient des Jeeps. Et elles ont laissé des empreintes, et on peut même voir la Jeep, on peut voir des objets qu'ils ont laissés sur la Lune. Et ces photos-là, donc, tu dis, ben là, voilà, ce qui pouvait te convaincre, c'est des photos des vaisseaux sur la Lune, ben les voici. Et là, les gens regardent ça en me disant, ouais, mais ces photos-là peuvent être truquées.
C'est probablement le tournage, là, en studio.
Ouais, donc, à ce moment-là, à partir du moment où ils disent, ouais, mais ces photos-là ont peut-être été truquées. Là, c'est à ta minute, ces photos-là ont été prises par des sondes chinoises, des sondes indiennes, des sondes américaines, mais des sondes européennes. Ça veut dire que tous ces gens-là, tous ces pays-là, entretiennent le complot de « nous ne sommes pas allés sur la Lune ». Là, ça devient comme absurde. Et là, ces gens-là vont toujours trouver un moyen de contrecarrer. Oui, oui, les Illuminati sont derrière ça, puis ils contrôlent tout le savoir de tous les gouvernements du monde. Bon, là, OK. Là, tu comprends. Là tu es comme perdu. Et là, tu as compris qu'il n'y a aucun argument qui est possible. Dans le cas des tours du World Trade Center, sans prendre position pour les théoriciens du complot ou non, les versions gouvernementales, posons-nous des questions du simple bon sens. Les humains, là, je ne sais pas pour toi, là, mais pour moi, là, de mon côté, là, les gens que je côtoie, ce sont des gens... Les gens aiment l'argent. Hein, Généralement, on veut tous avoir un petit peu d'argent. C'est bon. Ouais. Donc, imaginons, là, faisons basic, là, on ne prend pas position nulle part. Disons-nous, là, au départ, OK, imaginons qu'il y a un complot, que les tours du World Trade Center sont le résultat d'une organisation interne qui a voulu déclencher une guerre contre Oussama Ben Laden. Bon, parfait. Combien de gens aurait nécessité la mise en place d'un complot semblable. Il faut penser à la structure des avions, hein, parce qu'il faut falsifier les listes des passagers, inventer des passagers qui n'existent pas. Ou si des passagers existaient, il a donc fallu des pilotes kamikazes. Il a fallu que ce soit fait également avec l'aval de la sécurité intérieure, l'aval des contrôleurs aériens. Ensuite de ça, si les tours ont été dynamitées, il a fallu que des gens aillent poser de la dynamite dans les tours. Bon, c'est ce qu'on pense. Et là, ça demande une organisation qui va s'étendre sur des centaines, voire peut-être des milliers de personnes pour mener à bien une opération comme celle-là, autant sur les tours du World Trade Center que sur le Pentagone ou cet écrasement en Pennsylvanie. Donc, et ça fait 24 ans de ça. Logiquement parlant, hein, imaginons que les gens, il y a 24 ans, bon, les gens qui ont été impliqués dans ce complot-là, imaginons grosso modo là, que ça a demandé 2000 personnes. On peut prendre 1000 personnes, ça n'a pas beaucoup d'importance. Bon. Et là, on se dit, OK, de ce nombre-là, depuis 24 ans, combien d'entre eux sont décédés? Donc, on peut supposer, là, ce sont des calculs simples, c'est des calculs reconnus, c'est des calculs de statistiques. Donc, on se dit, sur les 1000 personnes, il y en a à peu près 250 qui sont décédés. Or, comme une personne sur trois décède d'un cancer, donc, on se dit, sur les 250, il y en a à peu près 75 là, qui ont dû mourir d'un cancer. Imagine-toi, là, Nick, que tu te réveilles un matin, tu as participé au World Trade Center, et tu te réveilles un matin, et puis ton médecin te dit, ben là, Nick, tu es atteint d'un cancer en phase terminale, stade 4. Il te reste 2 mois à vivre. Qu'est-ce que tu vas faire? Un secret, ça se monnaie. Un secret, là, ça vaut de l'argent. La première chose que tu vas faire, tu vas aller voir les grands journaux, un média quelconque, tu vas dire, regarde, je vais t'expliquer comment qu'on a monté l'histoire, je vais te donner des noms, j'ai des documents, des ci, des ça. Et puis, à ce moment-là, tu me payes. Puis moi, ben après ça, un coup que tu auras fait cette révélation-là, là, je me donne 1 million, moi, j'assure ma famille, ma femme, mes enfants. Un coup, je suis mort, tu publies ça, puis on s'en sacre, puis bon, tout va être révélé. Puis là, on ne parle que de gens décédés. On ne parle pas de gens qui auraient pu participer, par exemple, à cette théorie, à ce complot, et qui se seraient retrouvés dans les... Tu sais, on se dit, bon, OK, tu participes au complot, toi, Nick. Toi, t'es le gars qui va porter la dynamite. Et je te donne 1 million pour aller porter la dynamite. OK, parfait, tu poses la dynamite. Mais rien ne prouve que 10 ans après, tu te retrouves pas dans une situation financière précaire. Tu as divorcé, tu as joué, tu as perdu de l'argent. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas retourner voir ceux qui ont été tes bailleurs de fonds et tu vas les menacer de tout révéler si, à nouveau, ils ne te donnent pas de l'argent. C'est une forme de chantage, tu comprends? Donc, éventuellement, statistiquement parlant, c'est impossible, tout simplement impossible, qu'autant de gens aient été impliqués dans un complot qui aurait perduré si longtemps sans que personne éventuellement ne sorte preuve à l'appui qu'il y a eu un complot. Or, aujourd'hui, au moment où on se parle, 24 ans après les attentats du World Trade Center, combien de gens sont sortis de l'ombre pour dire qu'ils ont participé au complot du World Trade Center, preuve à l'appui? Zéro. Aucun. Pas un seul. Donc, à partir de ce moment-là, je ne fais même pas appel à la question de est-ce qu'il faut croire les théories du complot ou non. Je ne fais qu'appel au simple bon sens. Tout simple. Si c'était vrai, des gens, après toutes ces années, auraient parlé, le secret aurait été connu. Et on ne trouve pas dans l'histoire aucun complot qui a impliqué autant de gens qui peut perdurer à travers le temps. On dit souvent... quel que soit le complot, quel que soit le secret, s'il y a plus de 2 personnes d'impliquées, c'est sûr qu'il va finir par se savoir.
Assurément.
Et alors imagine-toi un complot qui aurait impliqué des milliers de gens, ben, éventuellement des gens soit qui auraient été insatisfaits du traitement financier, se seraient trouvés dans des situations précaires, la maladie, peu importe. Les gens auraient trouvé mille et une raisons pour monnayer le secret. C'est ça, pour monnayer le secret, ça ne s'est jamais fait.
Faudrait faire une pause, Christian.
Ben, alors faisons une pause. Puis on revient ensuite.
Absolument. Si vous voulez réagir, 88-670-9098. Ce soir, la thématique, c'est les questions du public. Au retour, je ne sais pas si tu préfères parler du triangle des Bermudes ou du signal.
Oui.
Wow. Bref, ce sera au retour de la pause.
Parfait.
Radio X Files.
Avec Christian Page.
Radio X.
Tu t'apprêtes à te lancer au-dessus d'un canyon en tyrolienne quand le préposé te félicite d'être le premier à essayer le nouveau câble. Pas sûr.
Chez Sainte-Foy Toyota, notre équipe confiance est là pour vous conseiller, vous accompagner et tant que vous aurez votre véhicule, ne vous laissera jamais tomber. Pendant l'événement Repartez en Toyota, Prius hybride branchable SE 2025 à partir de seulement $99 par semaine sur 60 mois, 20 000 km par année, à compte de $2 500. Sainte-Foy Toyota, une affaire de confiance.
La route, la route, la route, l'écran, la route. L'écran, la route, la route. La route, l'écran, le piéton qui traverse, le pare-brise qui craque, le piéton à terre, le piéton à terre, le piéton à terre. Vos yeux ne voient qu'une chose à la fois. Si c'est l'écran, ce n'est pas la route. Garder son attention sur la route, c'est juste la base. Un message du gouvernement du Québec.
On jette pas la pierre à personne. On jette pas l'éponge. Surtout, on jette pas son vieux climatiseur. On le recycle. Jette un coup d'œil sur gorecycle.com pour découvrir toutes nos solutions. À Go, recycle ta clim.
Le maître constructeur Saint-Jacques vous ouvre ses portes pour son plus gros événement de l'année. Ce week-end à Saint-Jacques-de-Leeds, on vous retrouve pour nos grandes portes ouvertes. Vous aurez l'occasion de visiter nos quatre maisons modèles et de découvrir comment nous construirons la vôtre. Passez nous voir et repartez avec une clé qui ouvrira bien plus qu'une simple porte. Soyez des nôtres ce week-end de 10h à 16h à Saint-Jacques-de-Leeds. Ça vaut le déplacement. Le maître constructeur Saint-Jacques, une entreprise vraiment différente.
La longueur importe peu quand on sait l'utiliser. Des articles coquins pour pimenter votre quotidien. Faites votre commande en ligne au sensationplus.com. Partagez le plaisir.
À Québec, un Ford, ça se penchait déjà, un Ford.
C'est le meilleur moment de l'année pour prendre le volant d'un véhicule Ford avec l'événement Prix employé. Obtenez jusqu'à 12 975 en ajustement de prix sur le F-150 2025, jusqu'à 6 247 sur le Bronco 2025 et jusqu'à 3 959 sur le Bronco Sport 2025. Chez Desjardins Auto Collection Ford.
Un Ford, ça se prend chez Desjardins Ford.
Bonjour, je cherche un divan de style moderne.
OK. Moderne style contemporain en cuirtane aux lignes super épurées ou moderne style divan nuage super design dans une couleur tendance?
Je pensais moderne, là, comme dans mon salon a besoin d'un coup de jeune. J'ai deux ados, un chien, un iguane puis un budget à respecter.
Ah, moderne style pratico-moderne avec une touche d'exotisme accessible. Alors, je vous montre ça tout de suite, suivez-moi.
Avec plus de 35 000 articles, on a le style que vous cherchez. Tanguay, tant de beaux styles.
Au-delà de l'écran, Télé-Québec vous attend.
Ce soir à 19h30, soirée quiz.
L'équipe Les Anciens du Bureau de Montréal rencontre les Horloges de Trois-Rivières.
À 20h, Curieux Bégin.
Christian fait un potluck entre amis.
Et à 21h, Les Temps Fous. Edith Cochrane reçoit Sarah-Jeanne Labrosse, Christian Bégin et Shirley Théroux.
Ce soir dès 19h30, Télé-Québec va au-delà des attentes.
Au-delà de l'écran, Télé-Québec vous attend. Au-delà de l'écran.
Bon, faut que je magasine mes assurances.
Moi, j'ai tout fait sans ligne. Merci, bonsoir.
T'es avec qui?
Avec CA Québec. J'ai regroupé mon assurance auto et habitation et ça donne un méchant bon rabais. Même pas besoin d'être membre pour s'assurer. Mais être membre, ça fait pas de tort, hein, quand t'as une petite tendance à oublier d'éteindre tes lumières d'auto.
Très drôle.
Pour un temps limité, obtenez jusqu'à 25 % de rabais et une remise de $50 CA en combinant vos assurances auto et habitation chez CA Québec. Certaines conditions s'appliquent. Visitez caquebec.com/assurance-auto.
La différence entre « j'ai vendu ma maison » et
« j'ai vendu ma maison »,
c'est des milliers de dollars de plus grâce à l'expertise de l'équipe Gagnon Courtier Immobilier. Profitez de leur service de home staging sans frais supplémentaires et vendez votre propriété 8, 10, voire 12 % de plus. Pour un effet époustouflant, wow, confiez votre maison à Rémi Gagnon et son équipe. 418-841-4141. Gagnez à être bien entouré avec équipegagnon.ca.
C'est la vente 8-8 chez Maxi. Profitez de milliers de baisses de prix, dont les pilons de poulet format club à 1,99 la livre, $4.39 le kilo. Les patates blanches délices du marché à 1,77 et les pommes Polared à 88 cents la livre, 1,94 le kilogramme. Plus de rabais en circulaire et chez Maxi.
On dit que l'automne est la saison des couleurs. Mais les plus belles ces jours-ci sont d'inspiration scandinave et se retrouvent dans la salle de montre chez Volvo Ville de Québec pendant l'événement Expérience d'automne. À partir de $57,231 en location à $299 aux deux semaines, louez dès maintenant le XC40 semi-hybride 2026 à 1,99% d'intérêt avec un acompte de $1,900, location 48 mois. Passez en mode ma vie, ma Volvo. Détails chez Volvo Ville de Québec. Les conditions s'appliquent.
Radio X Files
avec Christian Page.
Radio X.
On est de retour dans les Radio X Files sur les ondes de choix 98.1 Radio X avec Christian Page. La thématique ce soir, c'est les questions du public et une des questions qui revenait, Christian, c'est concernant le fameux signal WOW.
Oui, c'est assez amusant parce que c'est le signal WOW, bon, c'est, plaçons le contexte, on le sait depuis les années 60 maintenant, il y a une communauté de scientifiques, des astrophysiciens. Là, ici, on est très sérieux, là, on n'est pas dans les petits hommes verts, soucoupes volantes et tout le reste. Il y a une communauté de scientifiques, d'astrophysiciens, qui font partie d'un grand, un vaste projet à l'international, mais principalement américain, mais avec des relais un peu partout à travers le monde, un programme qu'on appelle le programme SETI.
Oui.
C'est un acronyme qui veut dire le Search for Extraterrestrial Intelligence, la recherche d'intelligence extraterrestre.
J'ai déjà participé à ça avec mon ordinateur.
Avec ton ordinateur, c'est ça.
Peut-être, là.
C'est ça. Donc, on demandait aux gens qui n'utilisaient pas leur ordinateur domestique de permettre d'envoyer de l'information pour que cette information-là soit un peu décantée oui. par les ordinateurs à ce moment-là, ce qui multipliait la capacité des ordinateurs du programme SETI. Donc, ce programme-là, puis quand j'ai dit tantôt les extraterrestres, là, faut les gens qui nous écoutent, là, les petits hommes verts, ne prenez pas ça de manière péjorative, mais je veux simplement faire une distinction entre cette recherche qui s'appuie sur des données scientifiques très précises et puis l'autre qui est beaucoup l'étude des ovnis tout le reste qui est beaucoup plus spéculative. Donc dans le cas du programme SETI, le Search for Extraterrestrial Intelligence, ce programme là il est né aux États-Unis au début des années 60. Il avait au départ le nom de projet OSMA puis éventuellement c'est devenu le projet SETI. Et ce programme là il est encore d'actualité aujourd'hui. Donc pour la plupart des gens d'ailleurs, on a le commun des mortels a découvert ce programme-là principalement avec le film mettant en vedette Jodie Foster,
oui.
qui était Contact, comme on se rappelle, ses grandes entailles, puis bon, elle va capter un signal. Donc, le programme existe toujours aujourd'hui. Et puis, c'est à travers ce programme-là qu'arrive le fameux signal WOW. Donc, jusqu'à maintenant, 2025, on n'a jamais officiellement capté de signal radio provenant d'une intelligence extraterrestre. Et évidemment, on peut être passé à côté. Là. Je veux dire, les scientifiques ont établi des caractéristiques précises. On dit si, hein, on part toujours d'un si les extraterrestres existent ailleurs dans l'univers, si une civilisation extraterrestre a atteint un niveau de technologie qui lui permet de communiquer, quel serait le mécanisme le plus simple pour communiquer? Ben, ce serait forcément par les ondes radio qui sont très, très longues et elles sont très communes, les ondes hertziennes, et elles sont... On peut les syntoniser sur différentes longueurs d'onde. Quelle serait la longueur d'onde qu'on utiliserait? Ben, probablement l'hydrogène, bon, un matériau qui est assez commun. Donc, on a établi des règles. On s'est dit, à partir du moment où on capte un signal qui répond à ces différents éléments, hein, ces éléments qu'on appelle une technosignature, donc une signature technologique, ben, on pourrait arriver à se dire, ben, c'est peut-être un signal radio émis par des extraterrestres. Et pas forcément un signal radio volontaire, hein, parce que nous, donc depuis l'invention de la communication radiophonique sans fil, on émet des ondes hertziennes dans l'air, dans l'espace, et ces ondes-là voyagent à la vitesse de la lumière, qui est à peu près 300 000 km à la seconde. Donc, on peut s'imaginer qu'une civilisation, une planète qui graviterait autour d'une étoile placée à 50 années-lumière de la Terre, par exemple, ben, pourrait capter avec des radiotélescopes des épisodes de notre vieille série Hawaii 5.0 des années 60. Tu comprends? Donc, ça nous donne un peu une idée. Ouais. C'est simpliste. Je présente ça de manière très simpliste. Mais on comprend. Donc, les ondes voyagent. Et bon, évidemment, en fonction de la distance. Et il y aurait une technosignature, mais une technosignature qui prouve que c'est une émission de télévision ou une émission de radio, mais pas un signal qui a été nécessairement envoyé de manière volontaire. Mais quand même une technosignature qui montre qu'il y a une civilisation intelligente dans le cosmos. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais capté un signal qui soit à cette hauteur-là. donc pour lequel on n'a aucun doute. On se dit, ça, c'est sûr que c'est un signal radio extraterrestre. À une exception près. Et cette exception, elle s'est produite le 15 août 1977. Et c'est peut-être pourquoi on en parle encore aujourd'hui. Et là, comme à chaque année, quand arrive le mois d'août, on voit apparaître des articles dans une certaine presse scientifique qui ramène à notre mémoire ce fameux signal qu'on a appelé le signal WOW. Puis pourquoi WOW? Ben parce que le signal a été capté par un radiotélescope qui se trouve dans l'Ohio, qui est le Big Ear, la grande oreille. Et à ce moment-là, donc, il faut se remettre dans le contexte. On est dans les années 70. Peut-être les plus vieux d'entre nous se rappellent-ils les imprimantes à marguerite. Là, c'est rat, ça écrivait sur des feuilles de papier. Puis là, les feuilles de papier sortaient à l'autre bout de l'imprimante, puis ça s'empilait. Là. Donc, à ce moment-là, en 1977, le radiotélescope est tourné vers l'espace et il est utilisé pour cette écoute à la recherche d'une technosignature. Et au matin du 15 août 1977, donc, il y a un des astrophysiciens qui travaille à ce radiotélescope, Jerry Heyman. Il arrive, puis bon, il collige les feuilles, puis il met ça de côté. Et quelques jours plus tard, au moment où il décante les signaux captés durant la nuit, c'est très redondant et c'est peu intéressant. Et là, voilà qu'il constate que durant cette fameuse nuit du 14 au 15 août, le radiotélescope a capté un signal qui a perduré pendant 72 secondes. Et ce signal-là diffère de tout ce qu'on n'a jamais entendu. Et je sais que les gens qui nous écoutent se disent « Mais à quoi il pouvait bien ressembler, le signal? » Ben, je l'ai mis de côté pour vous. Fait qu'on va le faire entendre. On fera pas entendre les 72 secondes, là, mais on va faire entendre une 15-20 secondes. Les gens, ça va leur donner une idée. Imaginez-vous, vous entendez le vide du cosmos, une espèce de buzz, hein, une espèce de bruit de fond, et tout à coup arrive ce signal.
On dirait presque un modem 56K voilà. De l'époque.
Oui, quand on envoyait des fax.
Hein? Oui, même chose.
donc, pendant 72 secondes, il y a ce fameux signal et ensuite, ça retombe à rien. En fait, l'espace n'est pas silencieux. Il émet toutes sortes de sons qui proviennent. En fait, les étoiles parlent beaucoup. Hein? Elles émettent toutes sortes de longueurs d'onde. Mais ce signal-là transcendait tout ce qu'on avait entendu. Et quand il a vu ça, l'astronome Jerry Heyman a écrit en marge de la feuille de papier WOW avec un point d'exclamation, puis a entouré le signal, hein, WOW, tu sais. Et c'est comme ça que le signal a pris son nom de fameux signal WOW, ouais. Parce que c'est la notation que Jerry Heyman avait mis en marge de la page. Il faut se rappeler qu'en août 1977, même si la presse en a parlé, je te rappellerai qu'en août 1977, en fait, le lendemain de la réception du signal WOW aux États-Unis, Elvis Presley est décédé. Yeah. Donc, pendant des jours, toute la presse américaine ne parlait que de la mort d'Elvis Presley. Hein, c'est ce qu'on se souvient, ouais, de la mort d'Elvis en août 1977. Donc, ce fameux signal WOW a fait l'objet d'un entrefilet dans la presse. Mais on était tellement préoccupés, un peu comme on a parlé plus tôt des tours du World Trade Center, ça occupe tellement l'actualité que ces autres éléments sont passés un peu inaperçus. Mais donc, après coup, on revient là-dessus. Bon, qu'est-ce que c'est que ce signal WOW? Et inutile de dire qu'aujourd'hui, en 2025, on n'a toujours aucune certitude. Encore, j'ai lu là, il y a quelques jours à peine de nouveaux articles parus dans la presse scientifique. Ou encore, puis quand je dis de la presse scientifique, c'est pas de la spéculation qui sont un peu fantaisistes. Là. C'est vraiment, on est vraiment dans un univers d'astrophysiciens qui discutent entre eux, qui échangent et qui remettent en question des données. Et on est toujours incertain sur l'origine ou la nature du message. On sait que le message semble, ce signal, appelons-le le signal, parce que bon, c'est pas c'est un message, mais on sait que le signal provenait de la constellation du Sagittaire et que le signal provenait d'un amas globulaire, hein, donc un grand nombre d'étoiles réunies et qui est la constellation globulaire M55 et qui se trouve à peu près à 17 000 années-lumière de la Terre. Ça veut dire que si moi j'envoie mon émission d'Hawaii 5.0 dont je te parlais tantôt, là, elle va prendre 17 000 ans à se rendre à cette étoile-là. Mmh. Donc, même s'il y avait une civilisation qui était sur place, qui a envoyé le signal, quand nous, on l'a capté en août 1977, ça faisait déjà 17 000 ans qu'il était parti. Ouais. Donc, il faut retenir ça. Donc, à partir du moment où on reçoit ce signal-là, il provient de l'espace. On connaît l'endroit d'où il vient. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Et là, il y a toutes sortes d'hypothèses. Certains ont parlé d'un magnétar, hein, donc une étoile magnétique, des pulsars. On a parlé de nuages d'hydrogène qui auraient amplifié un signal d'un quasar ou d'un autre type d'étoile, lui donnant cet aspect de message intelligent ou de technosignature. Mais somme toute, au moment où on se parle... Puis je sais que ça va peut-être décevoir des gens parce qu'ils me posaient la question « qu'est-ce qu'on sait exactement? » Ben la réponse est « pas grand-chose ». On ne le sait toujours pas. Hein? Il y a une école de pensée qui dit « ben voilà, c'est un phénomène naturel qu'on n'a pas bien décanté, qui a été faussé ». Il y a même des gens qui ont parlé d'une espèce de rebond, hein, d'un signal qui provenait de la Terre, qui aurait pu rebondir sur un corps planétaire, par exemple une comète qui passait au même moment, et le signal nous serait revenu. Donc tu vois, les hypothèses sont très variées. Mais somme toute, on n'a toujours pas d'explication définitive pour ce fameux signal de 72 secondes. C'est peut-être la seule fois où la Terre a reçu un coup de fil de l'espace, mais on n'a pas été en mesure de décoder qui était à l'autre bout du signal. T'sais. Donc, ça reste encore un mystère. Et à ce jour, faut-il le rappeler, jamais... Hein, je sais que cette semaine, la NASA a annoncé, c'était hier ou avant-hier, la NASA a annoncé qu'elle avait peut-être trouvé des preuves d'une ancienne vie bactériologique sur Mars. Là, on avait trouvé apparemment une espèce de vie fossile. Pas une vie fossile, mais des madans. En fait, on a trouvé des éléments qui sont sur Terre, qui sont généralement associés à une activité biologique. Hein. Ce sont des résidus, bon, ben, appelons ça, si tu veux bien, là, des cacas de microbes. Bon, ben, des cacas de microbes sur Terre, là, on a trouvé des cacas de microbes sur Mars. C'est à peu près ça que la NASA nous dit. Hein. C'est le robot Persévérance qui a trouvé ça. Donc, il a trouvé des cacas de microbes. Mais on n'a pas trouvé le microbe, on a trouvé du caca de microbes. Et comme sur Terre, la seule place où on trouve la seule fois qu'on voit du caca de microbes, c'est que forcément, il y a un microbe. Est-ce qu'il peut exister dans l'univers, sur d'autres planètes, des conditions géologiques qui feraient apparaître les mêmes résidus sans qu'il y ait de microbe? C'est pas interdit de le penser, mais si on se fie à ce qu'on connaît sur Terre, la seule manière d'obtenir ce type de caca, c'est qu'il faut qu'il y ait un microbe. Ouais. Donc, c'est un peu ce qu'on a trouvé sur Mars. Mais cela étant dit, on a quand même pas vu le microbe, là. Et cela étant dit, il faut quand même rappeler que quoi qu'on dise, même si on veut croire aux ovnis, aux extraterrestres, le signal wow et tout le reste, il faut quand même se rappeler qu'à ce jour, au moment où on se parle, en ce 12 septembre 2025, on n'a jamais vu de vie ailleurs que sur la Terre. Jamais. Donc, on a beau spéculer, se dire la vie doit exister ailleurs dans l'univers, il y a peut-être des millions de planètes. C'est beau faire cet exercice-là. Et c'est vrai que les chiffres jouent en faveur de ces visions-là. Hein. Il y a, tu sais, uniquement dans notre galaxie, on parle de 200 à 400 milliards, je dis bien des milliards, là, entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Notre étoile, le Soleil, n'est qu'une étoile parmi ces 200 à 400 milliards d'étoiles. Donc, et sur les 9 planètes, ben pas 9, 8, hein, parce que ça montre mon âge. Hein. Pluton a déjà été une planète.
Ah, moi maintenant, aussi, on est à 8.
Mais maintenant, on est à 8 planètes. Mais sur les 8 planètes, on a plusieurs bonnes candidates à la vie. On sait qu'il y a de la vie sur Terre. Il y a peut-être eu de la vie bactériologique ou microbienne sur Mars. Il y a peut-être de la vie également, là, de la vie sous forme de microbes, de bactéries qui pourraient exister sur Encelade, par exemple. Parce qu'en Encelade est une lune de la planète Saturne qui est recouverte de glace, mais on sait qu'en dessous de cette glace, il y a de l'eau à l'état liquide. Il pourrait donc avoir de la vie là-dessus. Exactement. On sait qu'il pourrait en avoir également sur certaines lunes de Jupiter. Donc, il y a plusieurs bonnes candidates uniquement dans notre système solaire qui pourraient avoir de la vie microscopique, là. Donc, qui n'est pas interdit. Puis là, on ne parle que d'une étoile qui est notre Soleil. Alors, imagine-toi, statistiquement parlant, sur les 200 à 400 milliards d'étoiles, et là, je ne parle que de notre galaxie. Faut-il rappeler qu'il existe des centaines de milliards de galaxies dans l'univers? Donc là, on se dit, il y a sûrement de la vie ailleurs. Hein? C'est pas bon.
Inimaginable, donc, en fait.
Voilà, c'est essentiellement sur le plan de la statistique. Mais fondamentalement, on n'a jamais observé cette vie-là, de la vie, on n'en a jamais observé ailleurs que sur la Terre. Qu'on a beau spéculer, imaginer tout ce que l'on voudra, on n'a jamais trouvé cette forme de vie. Et ensuite, le grand débat, puis c'est le débat aussi qui intéresse la plupart de nos auditeurs, c'est pas tant de savoir s'il y a de la vie sous forme de bactéries ou de microbes, c'est est-ce qu'il y a de la vie intelligente, hein? Oui. C'est ce qu'on veut savoir. Tu sais, de toi à moi, si demain matin, puis là, on le voit avec l'annonce de la NASA qui nous dit, ah, on a peut-être trouvé du caca de microbes. Ah, parfait, ouais, okay. Mais c'est pas, je comprends qu'au niveau scientifique, c'est extraordinaire, mais le commun des mortels, ce qui nous intéresse, c'est un peu cette espèce de rêve de la science-fiction. Existe-t-il des civilisations ailleurs dans le cosmos? C'est un peu cette grande question-là. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas la preuve même que la vie existe ailleurs, et encore moins de civilisations, parce que les civilisations, c'est quand on regarde tous les hasards, tous les événements qui ont fait que la vie sur la Terre soit arrivée à ce que l'on est aujourd'hui, il y a quand même eu 5 grandes extinctions où presque toutes les formes de vie sur Terre ont failli disparaître. La dernière en liste étant la 66 millions d'années, cette météorite, cet astéroïde qui a décimé les dinosaures. Mais avant ça, il y avait eu 4 grandes extinctions où presque toutes les formes de vie avaient disparu. Il suffit que la planète dérive dans l'espace de quelques degrés pour que la vie devienne impossible sur la planète. C'est probablement ce qui est arrivé sur Mars. Hein. Il y a peut-être eu un début de vie. Et puis Mars, pour des raisons X ou Y, a perdu son atmosphère. Là, je ne suis pas un astrophysicien pour rentrer dans le détail, mais elle a perdu son atmosphère et plus elle a été incapable de maintenir une température stable, ce qui fait que la vie a cessé. Le mécanisme de la vie s'est arrêté. Donc, l'idée qu'il existe d'autres civilisations dans l'univers, au moment où on se parle, statistiquement parlant, on peut se dire il y a certainement eu des civilisations, des civilisations intelligentes ailleurs dans l'univers. Il y en aura certainement d'autres, mais au moment où on se parle, en 2025, année de la planète Terre, on est peut-être la civilisation la plus évoluée qui existe dans l'univers. Donc, c'est un grand questionnement. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Et parce que la durée de vie, hein, la durée d'une vie d'une civilisation sur une planète, elle est très très courte. Hein. Oui. C'est un peu comme une luciole qui s'illumine la nuit là. Hein. La vie, tu sais, la planète Terre, elle a 4,5 milliards d'années, et la vie, même si elle est apparue il y a 4 milliards, il y a à peu près le 3 milliards d'années, les premières formes de vie, 3,5 milliards, 4 milliards. La vie est apparue assez rapidement sur la Terre. Ça a pris du temps avant qu'elle évolue, mais la vie là, originelle, la soupe originelle est apparue assez rapidement. Mais à l'échelle de l'univers qui a déjà 14 milliards d'années, la durée de vie est tellement courte que c'est comme imaginer que 2 lucioles vont s'allumer en même temps. Tu comprends? Tu regardes, 2 lucioles s'allument exactement en même temps pour qu'on puisse dire, ah, il y a une vie intelligente qui nous côtoie quelque part dans l'univers. Il faut que 2 lucioles s'allument en même temps. Si elles s'allument une fraction de seconde plus tôt ou plus tard, on n'est plus sur la même échelle de temps. On ne vit plus au même moment. Donc, c'est très compliqué d'imaginer tout ça. Et pour imaginer que des civilisations soient proches de nous, puissent nous visiter, comme l'histoire des ovnis, il faut imaginer que non seulement on a 2 lucioles qui s'allument en même temps, mais 2 lucioles qui soient suffisamment proches l'une de l'autre pour se côtoyer. Et ça devient infinitésimal comme possibilité. Mais néanmoins, tout ça pour te dire que le signal noir, aujourd'hui, même si on est 48 ans plus tard, on n'a toujours pas une explication définitive, une certitude absolue en disant « voici le signal noir, c'était ceci ou cela ». Et la porte reste ouverte à la possibilité, même si elle est infime, à la possibilité que le signal noir ait bel et bien été un message venant d'une civilisation extraterrestre.
Puis on n'a pas, on n'est pas arrivé non plus à le décoder, là.
Non, non. Encore là aussi, c'est un autre problématique. Dans le film Contact, bon, les scientifiques arrivent assez rapidement à décoder le message. Mais encore une fois, je veux dire quelque chose que les gens ont tendance à oublier. Sur Terre, là, il y a des millions d'espèces de vie, hein, des formes de vie différentes sur Terre allant, des microbes en passant par les insectes, les humains, les formes de vie plus évoluées, hein, comme les mammifères, ouais, par exemple. Bon. Et nous, on fait partie de cette échelle-là. On est des mammifères de la, hein, du type primate. Hein, puis bon, si on regarde nos cousins proches, les primates, tu sais, les gorilles, les chimpanzés, bon, les autres types. Il faut quand même se rappeler qu'on n'a jamais réussi, là, comme espèce, là, on n'a jamais réussi à communiquer avec aucune autre espèce sur Terre. Aucune.
Aucune.
Hein? Je veux dire, aucune, zéro. Là. On n'a jamais, même nos plus proches parents, les singes, les gorilles, là, on n'est pas capable de communiquer avec eux. On a réussi à leur apprendre quelques mots, quelques grimaces. On a découvert que quand ils se grattent le nez ou en dessous de l'aisselle, ça semble vouloir dire tel ou tel truc. Mais ce n'est pas une communication soutenue. Là. On n'arrive pas, on ne s'assoit pas devant la cage des lions, qui sont des mammifères, des félins, mais qui sont aussi des mammifères, puis avoir une conversation de 2 heures avec eux, puis on n'arrive pas à faire ça non plus avec des chimpanzés. Là. Donc, au moment où on se parle, là, nous, êtres humains, on n'a jamais réussi à comprendre une conversation, une communication avec des espèces qui nous sont proches, qui partagent le même environnement que nous, hein, que ce soit un environnement terrestre comme les chimpanzés, les gorilles, ou des formes intelligentes qu'on retrouve dans les océans comme les dauphins ou les baleines. On essaie de décoder le cri des baleines, mais bon, on n'y est pas vraiment arrivé, non, même si on sait que ce sont des animaux intelligents. Donc, imagine-toi, là, pousse ça plus loin, là. Ce sont des animaux qui nous côtoient tous les jours, qui vivent dans le même